La recherche autrement, une collection de reportages à la découverte des recherches participatives en Bretagne. Entrez dans les coulisses des recherches participatives en Bretagne et appréhendez l'innovation sociale sous toutes ses formes.
Donc c'est plutôt une réflexion de se dire comment est-ce qu'on va chercher notamment les milieux les plus précaires au niveau socio-économique, au niveau du handicap par exemple. Dans mes recherches, ces personnes-là elles sont assez isolées, elles ne sont pas forcément rattachées.
La voix de Mélissa Mialon, chercheuse à l'INSERM EHESP.
Alors que c'est là tout l'intérêt de la recherche participative, c'est d'aller toucher le citoyen lambda et en fait c'est les citoyens qui sont les plus sceptiques de la science, de la médecine, enfin voilà, de plein d'autres domaines, c'est des citoyens lambda, c'est pas des citoyens qui sont organisés en collectif, etc. Donc j'ai pas de réponse pour ça, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on pense un petit peu aussi à cet aspect-là.
Donc aujourd'hui on est dans les locaux d'Ascoria à Rennes, on organise le 3e forum des recherches avec, par, pour la société. Donc je suis Sandrine Dupé, je suis chargée de projet à Promotion Santé Bretagne. C'est une association qui fait de la formation, du conseil, de l'accompagnement et aussi de la recherche auprès de professionnels mais aussi de publics concernés sur des questions de santé. Donc la santé environnementale, les politiques de santé, l'éducation, le social, etc.
Et moi je suis Marion Michelin et je suis responsable du pôle innovation et filière à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc la CRES, c'est la tête de réseau des organisations de l'ESS. Donc voilà, elle fédère 150 acteurs, entreprises de l'ESS, associations ou têtes de réseau sectoriels, et elle a vocation à la fois représenter leurs intérêts, accompagner leur consolidation, leur développement, et puis travailler autour d'enjeux thématiques d'alimentation, l'agriculture, la mer, la santé, voilà, en fonction d'un cadre commun défini avec l'État et la région. Donc cette troisième édition du forum, elle est organisée ou co-organisée, je dirais à la fois donc par Promotion Santé Bretagne, la CRES Bretagne, le Collège coopératif de Bretagne, et la particularité de cette édition, c'est qu'elle est co-organisée avec le Conseil régional de Bretagne, l'Université de Bretagne occidentale, l'Université Bretagne Sud, l'Université de Rennes et l'Université de Rennes 2. Voilà, donc ça fait un certain nombre d'acteurs autour de la table, et en même temps, ça permet de dire aussi qui est présent aujourd'hui. Donc on a pas mal d'acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche, enseignants-chercheurs ou acteurs d'accompagnement des projets de recherche, et pas mal d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, voilà, qu'ils soient organisés ou non en réseau. Il y a un petit peu de collectivités territoriales aussi, notamment, voilà, qui viennent parler à la fois de leur projet de recherche ou de leur politique de soutien au projet de recherche avec, par et pour la société.
Et quelques usagers, je crois que j'ai aperçu. Oui, il y a aussi des usagers qui sont impliqués dans des projets ou qui souhaiteraient l'être et qui sont là aussi pour comprendre la mécanique, pour faire du réseau et s'impliquer dans des projets.
On est quand même sur des mondes qui ne se connaissent pas et énormément, et qu'on peut d'espace de dialogue, donc c'est avant tout conçu comme un espace de dialogue, et après c'est vrai qu'on compose avec différents formats, table ronde, puisque voilà, il y a une place malgré tout importante à la parole institutionnelle, c'est un endroit pour faire passer des messages, temps d'interconnaissance un peu plus informel, là comme on a vécu en fin de matinée, et des ateliers visant aussi à produire du commun, et la thématique aujourd'hui c'est plutôt les enjeux de retour à la société, entre guillemets, donc de valorisation des projets, d'appropriation, de transfert, et de ce que ça produit comme dynamique de transformation.
On avait organisé aussi les assises du tiers secteur de la recherche, puis les deux bouts du tiers secteur de la recherche, donc ça fait en fait des rendez-vous qui se succèdent depuis 2020, et au-delà d'extraire en fait des thématiques particulières, moi ce que j'observe, c'est vraiment plus d'interconnaissance, plus d'acculturation à ces thématiques, que ce soit des politiques publiques, qui sont plus au clair sur ce qu'ils ont à défendre, ce qu'ils proposent et où ils pourraient aller. Aussi les chercheurs qui commencent à comprendre en fait comment concrètement ils peuvent travailler avec les gens. Et puis les personnes qui sont peut-être plus soit revendicatives, soit qui arrivent mieux à s'exprimer auprès de ces autres acteurs pour dire « nous on a besoin de ça, on a besoin de ça, on sait faire ceci ou cela ».
Alors, prenons la séance d'aujourd'hui. Comparons le temps de parole qui a été pris par les scientifiques patentés et puis la société civile.
Autre ambiance captée sur un temps d'agora en fin de matinée.
À vue de nez, il y a un sacré déséquilibre. Or, ce déséquilibre, ces rapports de domination existent toujours dans la recherche, si on la prend comme un processus social, où on confronte deux mondes qui sont inégaux. Pour les uns, j'affecte du temps de travail pour lequel je suis déjà payé. Pour les autres, il faut que je cours après les sous pour arriver à venir, ne serait-ce qu'à cette réunion d'aujourd'hui. Bon, participant à un programme de recherche-action européen, dans le cadre de Horizon. Il y a des collègues anglais qui nous avaient fait une petite séance sur ce qu'ils appellent l'extractivisme, c'est-à-dire des scientifiques qui finalement viennent creuser la mine de la société civile pour prendre des idées, des déclarations, des interviews, etc. Et après s'en servent surtout en fait pour faire monter leur carrière scientifique sans qu'il y ait réellement interaction.
Je suis Tristan Lescure, je suis adjoint à la responsable du département des sciences humaines et sociales à l'Agence nationale de la recherche. C'est l'opérateur de l'État, c'est le bras armé un petit peu du ministère de la recherche qui a vocation à financer sur projet l'ensemble des besoins de financement des chercheurs en France. À l'ANR, on a lancé depuis 2021 un programme « Science avec et pour la société » qui s'inscrit depuis maintenant 4 ans, issu de la loi de programmation de la recherche, dans lequel on nous a demandé de consacrer 1% du budget d'intervention de l'agence pour renforcer le dialogue science, recherche et société. Le but, c'est vraiment de faire travailler et de converger, entre guillemets, les chercheurs, d'une part, et les acteurs de la société civile pour répondre à des besoins qui existent dans la société qui ne seraient pas financés jusqu'à présent dans le cadre de nos appels à projets. À l'ANR, on a développé 4 types d'appels à projets différents. Les deux plus gros depuis que nous avons lancé cette stratégie, c'est l'appel recherche participative, où là, on a 2 niveaux d'intervention. On a un premier appel qui est l'appel de la recherche participative consolidée, qui se dirige plutôt vers la participation d'acteurs qui ont déjà travaillé sur ces questions-là et dont l'idée est de venir apporter soit un projet suite, donc un complément de financement, mais surtout d'aller consolider une recherche qui est déjà travaillée d'une part et vraiment de renforcer les consortiums entre eux. Et un projet de recherche participative en émergence, où là vraiment l'idée est d'aller chercher la question de recherche qui est soit travaillée du côté du tiers secteur ou de l'académique. Et là, vraiment, c'est de monter le consortium, de réfléchir sur une question méthodologique et d'engager la recherche sur 12 à 18 mois sur cet appel-là. Le tiers secteur, chez nous, on l'a défini de manière très, très large. Ça va de l'associatif, de la fondation, de l'entreprise et même d'acteurs de collectivités territoriales, par exemple.
C'est quoi les plus gros freins peut-être à lever pour faire communiquer le champ de la recherche et la société ?
L'ANR a vocation principalement de financer d'abord les acteurs académiques publics. Et à travers ces différents appels, on est venu aussi apporter une capacité de réponse à des acteurs de la société civile de venir émerger sur des questions de recherche. Et là, peut-être, c'est de venir faire communiquer différents acteurs qui ne se connaissent pas forcément sur une question de recherche particulière. Et le frein, c'est que ils ne parlent pas le même langage, les enjeux, les objectifs ne sont pas les mêmes, et c'est ça aussi tout le sel de ces appels à projets de recherche participative, c'est vraiment de venir, nous à ANR, définir un peu les règles du jeu dans lesquelles ces acteurs-là vont venir répondre et en essayant d'être le plus juste possible à nos critères. Voilà.
À quoi ça vient répondre parfois une défiance qui est montante, notamment envers les sciences, mais plus globalement envers la recherche. Et puis un secteur sur lequel on a peut-être des idées reçues qu'on ne connaît pas bien.
Ça vient répondre aussi à un besoin, le besoin de faire aussi s'approprier la recherche, les questions de recherche par la société civile et de venir aussi expliciter ce qui est fait dans les laboratoires, qui est des fois peut-être un petit peu obscur et qu'à travers ces appels à projets-là, ce sont les citoyens aussi qui viennent aussi nourrir les questions de recherche des chercheurs et c'est ce dialogue-là qui viendrait faire émerger tous ces beaux projets que nous essayons de financer depuis maintenant 2021 à l'ANR.
Là, sur la journée du vendredi 18 octobre, vous avez participé, observé 2 tables rondes sur la matinée. Est-ce qu'il y a des points d'intérêt particuliers qui ont un peu capté votre attention ?
Très clairement, c'est le besoin de science se faire sentir. Les questions de recherche participative, elles existent sur tout le territoire. Là, ici en Bretagne, évidemment que le territoire breton bruisse de toute cette richesse-là et qu'il faut qu'il y ait finalement des financements qui viennent accompagner ce besoin. L'ANR étant un acteur, mais c'est pas le seul à venir financer ces besoins-là. On est certes dans une période qui va être un petit peu plus obscure, mais je pense qu'il faut garder l'optimisme, puisque nous, notamment à l'ANR, notre engagement se poursuivra du moins en 2025 sur 2 prochains appels à projets, et peut-être que c'est là-dessus qu'il faut rester sur cette petite note d'espoir.
La région n'a pas dans ses compétences enseignement supérieur à la recherche. Moi, je suis Olivier David, je suis vice-président en charge de la vie étudiante, de l'enseignement supérieur et de la recherche au Conseil régional de Bretagne. Voilà. Mais la région Bretagne, comme beaucoup de régions françaises, ont quand même fait le choix d'intervenir dans ce champ-là pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a confié aux régions le fait d'être chef de file des collectivités sur ces questions d'enseignement supérieur et de recherche. Donc on s'y est forcément intéressé. Alors, effectivement, en tant que région, on accompagne la recherche académique. On finance des bourses de thèse. On encourage aussi la mobilité des chercheurs, de faire en sorte qu'ils sortent de la région Bretagne pour aller aussi faire rayonner le potentiel scientifique de notre région à l'extérieur. Et en retour, on accueille aussi des chercheurs d'autres régions européennes, voire mondiales, pour venir en Bretagne, apporter leur savoir, leurs compétences et renouveler les axes scientifiques de nos laboratoires. Voilà, pour vous donner deux exemples, je pourrais multiplier quatre figures. Et puis, nous, on a aussi essayé de mettre en place un appel à projet pour justement faciliter le lien entre recherche et société. Et là, notre appel à projet pour renforcer ce dialogue, il impose pour pouvoir prétendre obtenir un financement un projet de recherche qui est effectivement pensé dans l'articulation entre les gens de la recherche académique avec des acteurs de la société. C'est soit le monde associatif, soit des collectifs, soit des citoyens. Et là, c'est vrai que ça fait maintenant 3 ans qu'on fait ça, on est sur la 4e campagne, on a pas mal de réponses, on a des projets très importants qui vont des modes de réflexion aujourd'hui sur comment faire évoluer nos mobilités pour qu'elles soient plus durables, à des questions de représentation et de visibilité, par exemple, lesbiennes dans la société. Vous avez d'autres éléments sur, par exemple, les risques psychosociaux dans le monde de la pêche, qui est un élément extrêmement important pour nous. Donc ça, c'est 3 exemples, et ça a un effet effectivement important qui participe au renforcement du dialogue, mais aussi avec une question qui reste sur la table, c'est comment on valorise les projets et les résultats de ces projets pour, autant que faire se peut, les disséminer vers l'ensemble de la société, mais aussi qu'elles viennent accompagner les évolutions de nos politiques publiques.
Est-ce qu'on peut donner un exemple pour imaginer comment ces chercheurs ont intégré ce facteur-là dans leur projet de recherche ?
C'est par exemple comment on va aller mobiliser des citoyens pour déployer la recherche académique. Voilà. Donc il y a plusieurs façons. Il y a soit d'abord impliquer les citoyens dans la démarche de recherche, ce qu'on appelle souvent le crowdsourcing. Si vous avez une recherche sur l'évolution des paysages dans une région comme la Bretagne, eh bien vous pouvez très bien, à partir des citoyens, avoir des recherches photographiques sur le terrain, avoir des recherches de cartes postales très anciennes pour montrer comment les choses ont évolué, aller faire des entretiens auprès d'acteurs qui ont peut-être un regard plus approfondi sur cette question, et donc consolider toutes ces sources pour venir alimenter le projet. Alors, c'est pas qu'une vision utilitariste que je suis en train de vous dire, hein. C'est aussi parce qu'ils ont un centre d'intérêt là-dessus, et les impliquer, ça veut dire aussi après, comment on traite cette information, avoir leur regard, avoir leur point de vue, et ça peut être très enrichissant pour faire évoluer la recherche. Et puis, vous avez des projets où on peut être sur des situations plus fondamentales, c'est que la question de recherche, on la construit entre les chercheurs et les acteurs de terrain.
Est-ce que vous, il y a certains points d'intérêt particuliers sur l'organisation d'une journée comme celle-ci, sur les thèmes qui y sont abordés, les propositions ?
Alors, d'abord, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est la première fois que l'on réussit à co-organiser cette journée en mobilisant tous les acteurs et les partenaires à l'échelle régionale qui réfléchissent à ces questions. Parce que le monde n'étant pas un monde de bisounours, il y a aussi dans ces questions-là des chapelles qui font qu'à un moment donné, les acteurs, il faut les mettre à travailler ensemble. Là, on a réussi vraiment à s'entendre sur les objectifs, sur l'organisation. Deuxième élément, ce qu'il faut prévoir, c'est effectivement des temps de dialogue. Alors, toujours compliqué quand on a un temps contraint, voilà, mais On a essayé de diversifier les formes et je remercie les organisateurs de cette journée d'avoir réfléchi. Entre des temps, effectivement, de table ronde, un petit peu institutionnel, un petit peu formel, ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est l'articulation de ça avec des temps un peu plus animés dans la manière de fonctionner pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Et donc ce matin, on a vécu une heure là où on voit bien que, au-delà de ce qui peut être dit sur des tables rondes, ça pose plein d'autres questions qui invitent à réfléchir de manière permanente.
Donc pour présenter très rapidement le projet, on l'a constitué...
En début d'après-midi, quatre ateliers étaient organisés. Là, on entend Doriane Guénoc, doctorante mobilisée sur le projet de recherche Atlas 2.
Et ce projet avait vocation à trouver des accompagnements pour des collectivités pour prendre en compte le risque de rupture alimentaire. C'est un sujet qui s'est construit avec un consortium assez hétérogène. En fait, il y avait donc Terralim qui est une structure de conseil, une association, donc la FRCIVAM, et puis des experts en gestion de crise et des chercheurs, donc des sociologues, des juristes, des économistes aussi, donc de l'INRA. Et les collectivités, oui, que je ne vous oublie pas, des EPCI, des PNR et des îles.
Une des actions qu'il y a eu dans ce projet-là, c'était le défi Locavore.
Et Patrice Gauthier, lui, vice-président à l'agriculture et à la mer à Dinan Agglomération.
On a pratiqué en plein projet à Dinan un repas pour une centaine de personnes avec un traiteur qui n'avait pas le droit de s'approvisionner au-delà de 50 km. Tout ce travail-là sur la question de la résilience alimentaire nous a conforté dans ce qu'on fait déjà et ce qu'on fait de plus en plus sur justement l'installation, le roulement des générations agricoles et l'installation d'agriculteurs qui sont en lien avec nos besoins de consommation. Puisqu'on voit très bien que le jour où on aura une grosse crise alimentaire, Covid puissance 10 ou 100, si on sait à peu près où sont les denrées et comment les chercher, c'est évidemment, on sera bien plus résilient.
Alors moi je m'appelle Benoît Feidel et je suis enseignant-chercheur à l'université Rennes 2 au laboratoire Espace et Société. Et puis depuis un peu plus d'une année, j'occupe la place de vice-président dans cette université en charge des relations sciences-sociétés et des partenariats. Au titre de mon implication dans mon établissement, je participe avec d'autres collègues de l'Université de Rennes, de l'École des hautes études en santé publique, à l'animation du label Sciences avec et pour la société du site rennais qui s'appelle Tissage, qui en soi est une belle métaphore, mais qui est un acronyme qui signifie Triptyque Sciences-Société pour agir ensemble. Triptyque parce que l'ADN de ce projet, c'est dans toutes les actions que nous menons, c'est d'essayer d'avoir ce triptyque chercheur, décideur, citoyen. Alors ce label, c'est une expérimentation qui est financée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a débuté en 2022 et il durera jusqu'en 2025. Donc 3 années d'expérimentation pour structurer ces actions à l'échelle du site rennais. Dans les actions que nous menons sur les recherches participatives, nous avons jusqu'à présent, au cours des 2 premières années, accompagné 20 projets. Et il y a une dernière année où on va sans doute en accompagner un peu plus d'une dizaine encore. Donc au final, ça sera sans doute une trentaine, un peu plus, de projets qui seront passés par la plateforme de recherche participative.
Comment ça fonctionne, un label, et à quoi ça sert ?
Ben, un label, c'est au-delà d'une source de financement, parce que là, il y a des financements qui sont associés. C'est aussi une reconnaissance. Donc c'est vrai que le label Science avec et pour la société qui est issu de la loi de programmation de la recherche de 2021, eh bien, c'est un label qui est national, donc qui permet aussi à des sites universitaires de se distinguer. On n'est pas dans l'excellence, on est plutôt dans l'expérimentation, mais en tout cas, ceux qui le veulent... peuvent être labellisés et labellisés des actions qui relèvent véritablement du dialogue science-société. Certains vont organiser un festival autour des sciences, d'autres montent une boutique des sciences, comme nos collègues de l'Alliance universitaire bretonne, c'est-à-dire l'Université Bretagne Sud et l'Université de Bretagne Occidentale à Lorient et à Brest. Donc chacun aussi propose les actions qu'il souhaite.
Le thème de la journée dans le cadre de laquelle on se rencontre, c'est la recherche avec, par et pour la société. D'abord, j'ai envie de vous demander pourquoi ?
On a suggéré que on n'appelle pas la journée valorisation, mais qu'on dise plutôt que produise, avec trois dimensions, appropriation, valorisation, ça c'est le terme vraiment de l'enseignement supérieur à la recherche, on valorise des choses, et puis transformation, ça c'est vraiment nous ce qu'on porte dans le tissage, c'est qu'on pense que les recherches participatives construisent des savoirs, certes, mais surtout ils transforment les gens en construisant ces savoirs.
Est-ce qu'on peut donner un exemple de projet avec donc le label Tissage qui montre comment la société peut être intégrée dans la réflexion du début jusqu'à la fin ?
Si je dois en retenir un, et sans doute parmi les plus récents, c'est notamment le projet Walking Foot. L'initiative vient d'un club de football, l'US Verne, qui notamment a une section de foot en marchant. Donc pour des personnes, soit parce qu'elles sont âgées, soit parce qu'elles ont un problème physique, mais qui souhaitent avoir une activité sportive. Je ne connaissais pas du tout, moi, à titre personnel, le football en marchant. Et c'est ce club de foot qui développe cette activité, eh bien, est entré en contact avec le conseil départemental de l'Ille-et-Vilaine. Ils se sont dit, bah, ça serait intéressant de s'associer avec des chercheurs pour objectiver les bienfaits de la pratique, pour aussi médiatiser, c'est-à-dire que les associations, elles viennent aussi avec un objectif de légitimation de leur action. Et donc, le résultat, c'était d'aller chercher des chercheurs au laboratoire Mouvement Sport Santé, M2S, qui est un laboratoire de l'École Nationale Supérieure, et puis de l'Université Rennes 2, et que des collègues enseignants-chercheurs viennent accompagner ce club de foot et les élus qui étaient intéressés par cette activité pour objectiver scientifiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça transforme véritablement aussi la recherche, parce que ce qui a été convenu, c'est que la valorisation de ce travail-là en partenariat prendrait la forme non pas de publications scientifiques comme nous, dans notre milieu académique, on a l'habitude de le faire, et on sait que entre nous, on le lit beaucoup, mais la société quand même, il y a un coût d'accès à ces publications qui est assez important, et bien là, de faire une valorisation sous la forme d'une BD, d'une bande dessinée.
Et lors de la journée là, dans le cadre de laquelle on se retrouve, est-ce qu'il y a des réflexions ou des limites soulevées, des dynamiques particulières qui vous interpellent ?
Il y a cette idée de troisième grande mission des universités. Les universités, elles servent, ou les lieux de formation, elles servent à faire de la formation, aussi de la recherche. Donc ça fait deux missions fondamentales. Mais on peut aussi pousser plus loin en disant qu'il y aura une troisième mission de service à la société, de service aux collectivités, aux collectifs, aux citoyens. Et que il faudrait aussi inscrire cette mission-là dans les statuts, mais aussi dans les budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche, et même concevoir nos actions dans ce sens. Et aujourd'hui, c'est un peu un frein dans ces actions, c'est-à-dire que là, Tissage, c'était une expérimentation de 3 ans, il y a des gens qui se sont formés, on commence à être connus au bout de 3 ans, et les financements s'arrêtent, donc on va perdre tout l'acquis. Et c'est aussi toute la difficulté du fonctionnement aujourd'hui de l'enseignement supérieur et de la recherche sur projet, où on développe des choses, c'est bien de se dire on va pas développer d'emblée, sanctuariser des choses parce qu'il faut les tester, mais on a du mal à aussi réussir à accompagner les choses qui fonctionnent et à les pérenniser, surtout dans la situation actuelle des finances publiques.
Aujourd'hui, donc, je suis présente à cet événement parce que dans le cadre du projet IRIS-E, nous avons un axe, et c'est un des axes principaux du projet, qui concerne le hub de sciences participatives. Muriel Isler, je suis la vice-présidente recherche de l'Université de Rennes et également je suis la porteuse scientifique du projet IRIS-E, qui concerne notamment donc, le développement de projets interdisciplinaires et le développement de solutions innovantes pour la transition environnementale. Derrière, justement, se pose la question de comment les différents acteurs, que ce soit les acteurs académiques, que ce soit les collectivités, les entreprises, mais également les associations et le citoyen, travaillent ensemble.
Le projet IRIS-E, il a donc déjà vécu une année et il s'étend sur un temps long, sur plusieurs années, avec un financement très important pour essayer de faire du lien entre les différents projets de recherche qui sont menés sur le territoire breton. Sur le sujet qui est abordé aujourd'hui, la recherche avec, par et pour la société, je voulais d'abord vous demander pourquoi au final chercher à aller vers la société quand on est chercheur ?
Dans les laboratoires, de manière générale, les chercheurs cherchent dans un domaine bien précis. Ils sont reconnus pour ça. Il y a une excellence disciplinaire qui est reconnue au niveau national et international dans nos laboratoires. Mais il faut aller plus loin. Et surtout, lorsqu'on veut s'intéresser notamment donc, aux enjeux de la transition environnementale, il faut forcément qu'on ait différents acteurs autour de la table qui ont des compétences différentes et également qui viennent de périmètres ou de milieux très différents. Et ça, c'est extrêmement important parce que sinon, on ne va pas pouvoir répondre à ces enjeux.
De quelle façon est-ce que le projet IRIS-E va chercher la société ?
Alors la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a identifié des tiers-lieux, des terrains de jeu sur lesquels on va pouvoir travailler. Et on s'est tourné dans un premier temps vers Rennes Métropole pour voir comment on pouvait travailler ensemble, et pas à la fin d'un projet, mais dès le début, en fin de compte, d'un projet, que ce soit un projet de recherche ou un projet de formation. Et donc on a travaillé ensemble pour mettre en place un projet qui met en avant notamment les questionnements de Rennes Métropole et voir comment les chercheurs peuvent y répondre. Ensuite, également au niveau de la formation, on a clairement identifié qu'il fallait des compétences pluridisciplinaires à nos étudiants. Et là également, on travaille avec Rennes Métropole pour acculturer aussi nos étudiants à ces dimensions-là.
Et donc vers la société civile plus largement, il y a déjà eu des choses qui se sont passées à l'Hôtel Pasteur ?
Oui, effectivement. Donc là aussi, c'est un enjeu important. C'est comment on travaille avec le citoyen. La première question qu'on s'est posée, c'est également quelle était sa vision justement sur les questions d'enjeux de la transition environnementale. Et donc, on lui a posé des questions sur les dépassements de limites planétaires, mais également des questionnements de la vie de tous les jours, notamment dans la métropole rennaise. Plus de 700 personnes se sont prêtées à ce jeu-là, que ce soit des petits-enfants, je dirais à 99 ans, on a vraiment eu tous les âges, et les personnes sont donc venues, ont témoigné, et donc le témoignage a été mis sous forme de dessin, par exemple. Ceux qui voulaient pouvaient témoigner lors de conversations croisées avec d'autres personnes qui étaient présentes autour des questions de l'habitat, de la mobilité, parce que ça aussi c'est des questions très importantes. Donc on a vraiment traité plus d'une dizaine de sujets avec l'ensemble des personnes présentes, et avec toutes ces informations que nous avons pu recueillir, bon, on va faire en fin de compte une synthèse et on va faire des articles qui vont naturellement paraître dans la presse, qui vont justement être dédiés aux citoyens, et ça va permettre également d'établir une feuille de route pour nous, pour voir comment on peut travailler ensemble, quel type de projets peuvent être mis en place avec notamment le citoyen.
Est-ce qu'on dépasse les bornes ? C'est la question qui avait été posée lors de cet événement fin septembre. On se retrouve donc vendredi 18 octobre lors d'une journée avec beaucoup d'échanges sous différentes formes pour parler de la recherche participative et du lien entre recherche et société. Est-ce que vous, il y a des questionnements là déjà sur la matinée ou même prévus durant l'après-midi qui vous interpellent plus que d'autres ?
La question que l'on voit notamment déjà dans les projets qu'on met en place, c'est comment l'ensemble de ces acteurs travaillent ensemble. Et ça, c'est des questions qui sont intéressantes parce que chacun a une approche différente. Et donc, il faut que les personnes qui sont autour de la table apprennent à se parler. Et ça, c'est une première étape. Ça va permettre de définir le projet, de mieux travailler ensemble. Et c'est effectivement accompagner le projet tout au long pour toujours être compréhensible par l'ensemble des acteurs. Je trouve que ça, c'est quelque chose de vraiment important.
Et donc, on s'est dit, qu'est-ce que transforme la recherche participative pour l'individu, pour le collectif, pour la recherche elle-même et pour la société. Et donc c'est bien là-dessus qu'on souhaite avoir vos retours.
Autre salle, autre atelier.
Vous allez faire trois groupes, un groupe vert, un groupe jaune, un groupe rose, et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On va lancer.
Oui, donc, après,
je m'appelle Anne Guérin et je suis idéographe. Je mets en scène les idées, les processus en utilisant les outils du dessin et de la facilitation graphique, donc sur papier, tablette.
Comment vous vous êtes retrouvée sur cet événement auquel on assiste aujourd'hui ?
C'est lié à un petit chemin qui est passé par la case salarié du monde associatif, reprise d'études universitaires, coordination de recherche participative, jusqu'à mon nouveau métier d'idéographe. Et en fait, j'ai montré mes dessins, mes notes dessinées à plusieurs personnes lors de colloques ou de rencontres, et ça donnait des idées à certains ou certaines. D'illustrer des recherches participatives, enfin de leur donner une visibilité par cette approche idéographique, ou de capter en direct un processus à travers la casquette de tiers veilleuse, ou de faire ce que j'ai appelé une fresque générative de la journée d'hier pour qu'elle illustre ce qui s'est dit hier aux personnes qui sont là aujourd'hui.
Puisque vous êtes présente le vendredi 18 octobre, mais donc aussi le jeudi 17.
Voilà, hier, j'étais également là pour écouter et témoigner en tant que tiers veilleuse, mais écouter ce qu'avaient à dire les lauréats de l'appel à projet de la région. Il y avait des lauréats de différents appels à projet, différentes années, je ne sais plus si c'était 30 ou 50 personnes. Aujourd'hui, il y a vraiment plus ce volet... En quoi ça produit de la connaissance, alors qu'hier, c'était vraiment presque de se dire est-ce que la production de connaissance est plus importante. Hier, c'était aussi de se dire, mais il faut aussi que les recherches participatives transforment la science. C'est pas que la science qui transforme la société. Finalement, le chemin, ça c'est mon regard à moi, je me dis que le chemin est presque plus important que le résultat, même si ça se traduit parfois par des solutions, et on a parlé ce matin de science des solutions, en écho à l'économie sociale aussi solidaire, qui est l'économie de la solution, quelqu'un a parlé de ça. Et c'est vrai que voilà, c'est dans les préoccupations aussi de faire des propositions concrètes sur le terrain.
Donc voilà, une grande fresque qui est dessinée donc sur une grande feuille de papier avec quand même la région Bretagne qu'on distingue, et puis tout autour plein d'éléments dans les teintes bleues et jaunes, et puis des personnages voilà, qui viennent un peu appuyer sur les points forts que vous avez explorés ensemble.
Ce reportage a été produit et réalisé par la Corlab avec le soutien de la région Bretagne. Pour plus d'informations sur le projet que vous venez d'entendre et pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur corlab.org.